Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Idowani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halo Dmauni.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette émission Grand Dialogue d'aujourd'hui qui parle du don du sang en prélude à la journée internationale du donneur de sang célébrée demain 14 juin. Nous posons la question aujourd'hui, pourquoi est-il difficile d'avoir du sang au Mali? L'accès au sang pour les malades et leurs proches reste problématique, particulièrement pour certains groupes sanguins. En 2021, sur un besoin de 400 000 poches de sang, le Centre national de transfusion sanguine n'avait reçu que quelques 83 000 poches. Pourquoi est-il difficile d'avoir du sang? Le pays a-t-il suffisamment de donneurs de sang? Comment rendre le Centre national de transfusion sanguine autosuffisant? En prélude à la journée du donneur de sang, nous posons le débat avec nos invités, Sekoumar Koulibaly du Centre national de transfusion sanguine, Pierre Koné de l'Association des donneurs bénévole de sang et Fatoumata Togola de l'Association malienne de lutte contre la drépanocytose. Amlud Sekou Gadjigo va modérer ce grand dialogue. Mesdames, Messieurs, bienvenue.
Le grand dialogue.
Merci, chers invités, d'être là. Nous espérons que Fatoumata Togola va nous rejoindre d'un moment à l'autre. Monsieur Koulibaly Sekoumar, pourquoi est-il difficile d'avoir du sang aujourd'hui?
Alors bonsoir Monsieur Gadjoko, je salue tous vos téléspectateurs. Pour répondre à votre question, la problématique de l'approvisionnement en sang aujourd'hui se pose avec acuité au Mali. Parce que quand on regarde nos chiffres, la plupart de nos donneurs sont des donneurs de compensation. Un donneur de compensation, c'est un donneur familial ou un donneur parental qui va se constituer donneur seulement lorsqu'il a un des parents qui se trouve dans les besoins transfusionnels, donc qui est malade, qui a besoin de sang. Donc lui, il se voit un peu étant sous contrainte de venir donner son sang. Alors que pour un approvisionnement correct et régulier, en vue de pouvoir constituer un stock digne de ce nom, il faut que au moins plus de 80% des donneurs soient des donneurs volontaires. Voilà, donc c'est vrai, il n'y a pas assez de donneurs volontaires. Il y a beaucoup qui veulent donner leur sang, mais leur occupation et leur temps peut-être ne leur permettent pas de faire les déplacements pour venir au Centre national de transfusion sanguine. Donc c'est au Centre national de transfusion sanguine également d'organiser des collectes de sang périodiques pour aller vers ces donneurs-là. Donc cela aussi demande beaucoup de logistique, beaucoup de moyens.
Alors, comment avoir du sang lorsqu'on en a besoin? Quelles sont les conditions, les procédures?
Les conditions, elles sont simples. D'abord, le don de sang est régi par ce qu'on appelle des principes éthiques. Il y a ce qu'on appelle le bénévolat, il y a le volontariat et il y a l'anonymat. Le volontariat, le donneur viendra donner son sang de lui-même. Il ne doit pas être sous contrainte. Le bénévolat, c'est qu'il vient donner son sang, mais en retour, il n'attend rien. Donc c'est un geste purement altruiste. Les conditions, quand un donneur vient, quand un candidat au don vient, voilà, il est reçu quand même au niveau de notre service d'accueil et il est mis dans le circuit pour la sélection médicale. Il doit être vu d'abord par un médecin qui va évaluer son aptitude médicale au don. Voilà, s'il passe ce premier niveau de filtre, donc il peut aller donner son sang. Voilà, le tout ne dépasse pas 15-20 minutes.
D'accord. Monsieur Pierre Koné, vous êtes donneur bénévole. Depuis combien de temps vous êtes un donneur volontaire du sang?
Merci pour la question. Comme Cheikh Oumar, je salue tout le monde, tous les téléspectateurs. Moi, je suis donneur bénévole de sang il y a plus de 40 ans, depuis 80. Moi, je donne du sang. Alors,
pourquoi avoir décidé de donner votre sang volontairement, bon, sans rien en contrepartie?
Bon, c'est parti d'une de nos sœurs religieuses. Quand nous, on était jeunes, on était des enfants de cœur auprès des prêtres. Et on était responsable des mouvements d'action catholique, le scout, le quesito. À la suite de ça, un jour, il y a la bonne dame là qui nous appelle. Il dit, ah, vous avez un de vos frères qui est malade, il a un problème de sang. Et vous, vous êtes des jeunes et votre Christ a donné un peu, a versé son sang pour vous sauver. Pourquoi vous aussi, vous ne pouvez pas donner un peu de votre sang pour sauver votre frère? Nous, on lui a dit que nous, on ne sait pas comment ça se passe. Elle nous a expliqué que c'est à Tomokorobou. C'est comme ça que nous, on est allé à Tomokorobou. Et après, comme c'est comme on l'a dit, la visite médicale, on a fait le don de sang. Et tout de suite, on nous a dit, voilà, vous pouvez, si vous êtes d'accord, vous pouvez venir donner chaque 2 mois. En ce temps-là, le don de sang, ça se faisait chaque 2 mois. Quand nous, on a donné ce sang-là, et qu'après, on a vu ce jeune-là sur pied, nous, on était très contents. Pour nous, à ce temps-là, nous, on pensait que c'était notre sang qui a sauvé ce monsieur, et ça nous a fait tellement plaisir qu'on était contents. Et avec ça, tous les 2 mois, nous, on partait donner. Et finalement, au bout d'un certain temps, si nous, on partait même pas donner, on ne se sentait pas bien. À un certain moment, quand les 2 mois arrivaient, si on ne partait pas donner, on ne se sentait pas bien. Souvent, on se posait la question, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a? Mais quand on se rappelle que c'est le don de sang qui est arrivé, on part donner tout de suite, vraiment, on se sent vraiment à l'aise et libre, comme l'air. Ouais, vraiment, vraiment, nous, ça nous a fait du bien à donner du sang et à sauver des vies. Vraiment, c'est ça qui nous a motivés à devenir donneur bénévole de sang.
D'accord, Cheikh Oumar Coulibaly, vous l'avez dit tantôt, comment devenir donneur de bénévole de sang, mais est-ce que vous pouvez nous dire comment avoir du sang lorsqu'on en a besoin? Par exemple, un malade qui a besoin de sang, comment il fait pour avoir du sang au niveau du Centre national de transfusion sanguine?
Cela nécessite forcément l'implication du médecin qui assure la prise en charge de ses patients. On ne s'auto-prescrit pas la transfusion. Donc quand on est malade et qu'on est réellement dans les besoins transfusionnels, c'est au médecin traitant d'évaluer l'état de santé du patient et de décider de l'opportunité de le transfuser ou pas, mais sur la base de son consentement éclairé. Donc c'est au médecin de prescrire le bon de sang en bonne et en due forme et de l'adresser au CNTS ou bien à des antennes transfusionnelles au niveau des CCRF et au niveau des hôpitaux qui disposent de banques de sang, bien sûr. Donc lorsque le bon nous est acheminé, généralement par le biais de la famille, nous on va apprécier la prescription. Si tout est OK, donc on va demander des donneurs de compensation. Et quand les donneurs de compensation s'acquittent de leur don, donc en ce moment, en guise de remplacement, le patient pourra entrer en possession des produits sanguins dont il a besoin.
Donc, si je comprends bien, quand on est malade ou bien on a un parent qui est malade, pour pouvoir avoir du sang, il faut qu'on ait un donneur de compensation dans votre famille ou bien parmi vos proches.
Tout à fait. On est obligé quand même d'adopter ce système-là, quand bien même que ce n'est pas l'idéal. À défaut de sa maman, on le dit, on va têter sa grand-mère. L'idéal, c'est que les 80% au moins de nos donneurs soient des donneurs volontaires. Comme ça, chaque fois que un malade se trouve dans les besoins transfusionnels, à travers une prescription qui lui est faite, donc il peut librement avoir accès au sang sans compensation. Mais tant qu'il n'y a pas de donneurs volontaires réguliers en nombre suffisant, nous, on a du mal à constituer un stock. S'il n'y a pas de stock, forcément, le système va recourir aux compensations.
Alors, quelqu'un qui n'aurait pas de donneur, en tout cas parmi ses proches ou bien dans sa famille, pour compenser le sang demandé, ça veut dire qu'il ne pourrait pas avoir du sang?
Non, ce n'est pas ça. À longueur de jour, nous, on sauve beaucoup de vies humaines. Voilà, des malades qui ne peuvent pas quand même mobiliser des donneurs. Parce que ce qui arrive souvent, c'est qu'il y a des maladies chroniques. Il y a des maladies chroniques dont la prise en charge dépend de la transfusion. Je prends l'exemple sur la drépanocytose. Je prends l'exemple sur l'insuffisance rénale, tous ceux qui souffrent de néphropathie. Vous allez trouver qu'à un moment donné, ils vont épuiser leur stock en donneurs de compensation. Donc là, le système doit en tenir compte. Et puis c'est au cas par cas, quoi.
D'accord. Pierre Koné, vous êtes donneur bénévole de sang depuis plus de 40 ans. Est-ce que ce don que vous faites de façon volontaire, est-ce que il vous est arrivé d'en tirer profit souvent?
d'en tirer profit. Bon.
D'avoir des privilèges au niveau du CNTS, parce que vous êtes un donneur volontaire depuis plusieurs années.
Bon, pas forcément. Mmh. Pas forcément, mais quand même, les privilèges que nous avons, d'abord, moi personnellement, le sentiment qui m'anime d'avoir sauvé la vie, ça c'est plus important pour moi d'abord. Et ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, au niveau du CNTS, les donneurs bénévoles réguliers, ils ont fait des faveurs pour ces donneurs-là et on peut faire le bilan deux fois gratuitement dans l'année. Ça c'est accordé vraiment aux donneurs bénévoles de sang. Au-delà de ça aussi, ils donnent des attestations de reconnaissance. Ça aussi, bon, je peux dire que c'est un cadeau. Bon, au préalable, nous les Jumeaux, à cause du nombre de dons aussi, on a reçu des cadeaux avec le Rotary et Rotary Club. Ils sont arrivés à un moment à nous donner des téléviseurs pour nous encourager. Bon. Vraiment, à part ça, quand même, nous, même, on ne s'attend pas à quelque chose. Parce que nous, on ne donne pas pour s'attendre à un retour ou à quelque chose. Vraiment, ce n'est pas ça notre ambition. Notre ambition, c'est de donner. Même les remerciements, souvent, nous, on ne veut pas.
D'accord.
Vraiment, on donne à cause de Dieu pour sauver nos prochains.
D'accord. Il a dit, il dit que les donneurs bénévoles ne sont pas assez nombreux maintenant. Comment vous l'expliquez? Qu'est-ce qui fait qu'ils deviennent rares, les donneurs volontaires?
C'est-à-dire, il faut reconnaître que la population a beaucoup grandi. Il y a beaucoup de malades aussi, souvent des accidents, des femmes qui accouchent, comme il a si bien dit, il a cité des maladies chroniques qui nécessitent vraiment la transfusion de sang. Mais quand on compte tout ça, et que le nombre de donneurs bénévoles n'est pas assez, il a dit le pourcentage, au début je crois il avait dit 35%, alors que pour avoir l'autosuffisance en matière de dons, il faut au moins 80. Donc, je crois que les gens n'ont pas compris l'importance. Et il y a un manque, peut-être, même à notre niveau, la mobilisation et la sensibilisation de la population. Ce n'est pas facile. On fait de notre mieux, mais quand même, avec tout ça, quand même, il y a des problèmes pour que les gens comprennent. Et c'est pourquoi, maintenant, avec l'OMS, ils ont promis de nous accompagner dans le cadre de la mobilisation pour un engagement communautaire. Bon, un engagement communautaire, c'est-à-dire que nous allons faire des sensibilisations au niveau national qui va s'adresser aux leaders religieux, aux chefs de quartier, aux jeunes, aux femmes, à tout ce qui est leader. On va les sensibiliser, les forces vives de la société, pour qu'ils comprennent l'importance du don de sang. Vraiment, nous sommes tous des potentiels malades. Aujourd'hui, moi, je suis en bonne santé. Je donne. C'est sûr que peut-être un jour ou l'autre, moi aussi, j'aurai besoin du sang. Si chacun comprenne ça et qu'il se constitue en donneur bénévole de sang, je crois qu'un jour ou l'autre, on va avoir ce dont nous avons besoin.
D'accord. Sekoumar Koulibaly, Fatoumata Togoula vient de nous rejoindre juste le temps qu'elle s'installe. Je voudrais vous demander combien de poches de sang vous avez besoin par an. Est-ce qu'il y a un nombre fixe ou bien ça dépend des années?
Au fait, selon l'OMS, si 1% de la population donne son sang, c'est largement suffisant pour couvrir les besoins nationaux en produits sanguins. Donc 1% de la population malienne, on va faire un petit calcul, nous sommes à peu près 20 millions d'habitants. Donc 1% de 20 millions, ça doit faire, si je ne m'abuse, 200 000. Donc nos besoins en produits sanguins se chiffrent à 200 000 poches par an. Voilà. Alors que nous sommes en deçà de 100 000 poches par an de collecter. Voilà.
Mais combien de poches vous pouvez mettre à la disposition des centres de santé, de vos antennes régionales?
Au fait, le système national de transfusion sanguine, normalement, le CNTS qui a pour mission d'en assurer la régulation sur l'ensemble du territoire, Le travail du CNTS est beaucoup plus focus sur Bamako et environ. Donc à l'intérieur du pays, on a les hôpitaux qui assurent quand même l'activité transfusionnelle. Mais les besoins des structures, c'est toujours exprimé par les médecins, comme je l'ai dit tantôt. Et peut-être le besoin en nombre de poches prescrites n'est pas tout de suite satisfait le même jour, mais on trouvera toujours le moyen quand même de satisfaire la demande en quelques jours.
Alors Fatoumata Tougoula, vous êtes membre de l'association malienne de lutte contre la drépanocytose AMLUD. On vient de le dire ici, hein, la problématique du don de sang est constatée un peu partout dans le pays. Est-ce que vous, en tant que membre de cette association de lutte contre la drépanocytose, vous êtes aussi souvent confronté à ce problème?
Okay, merci pour cette question. Merci aussi, Yotamani, pour cette émission. À l'association malienne de lutte contre la drépanocytose, nous avons des drépanocytaires. Et qui connaît la drépanocytose, qui est une maladie du sang qui occasionne de l'anémie chez le malade et qui n'est pas. On ne peut pas estimer combien de fois dans l'année ou bien par mois il aura besoin de sang. Ça peut arriver à tout moment. Et là, quand ça arrive, la seule solution c'est d'avoir du sang. Et au niveau de l'association, le sang pose vraiment beaucoup de problèmes pour nos malades.
Pour vous, cela est dû à quoi? Est-ce que c'est dû au fait qu'il n'y a pas assez de donneurs de sang ou bien il y a d'autres facteurs qui font que c'est difficile d'avoir du sang?
Oui, c'est dû à beaucoup de choses que je peux peut-être ne pas trop maîtriser. Mm-hmm. Mais nous savons qu'il n'y a pas beaucoup de donneurs de sang parce qu'à notre niveau, à l'AMLUD, on a essayé de trouver des donneurs permanents pour nos malades. C'est-à-dire pour chaque malade, trouver un donneur qui serait à mesure, à chaque fois que le malade en aura besoin, dans le temps permis par la banque de sang, en mesure de donner du sang à la personne qui doit soutenir. Mais malheureusement, on a beau essayer, on a du mal vraiment à avoir assez de donneurs pour nos malades. Et dans nos familles, nous savons que la drépanocytose, c'est une maladie héréditaire. Donc ça fait qu'on peut avoir d'autres malades dans la famille. Et là, si le malade doit compter sur ses parents, souvent c'est très difficile. Soit il a des frères aussi drépanocytaires ou des sœurs drépanocytaires qui ne peuvent pas lui fournir de sang. Et ce qui fait que souvent ça devient très difficile pour le malade d'avoir à côté de lui des personnes qui sont en mesure de lui donner du sang. Donc ça peut être une cause. Et une autre cause, c'est que nous, les drépanocytaires, je ne suis pas spécialiste en la matière, mais nous avons besoin d'un type de sang qui n'est pas comme chez tout le monde. Les spécialistes pourront en parler. Donc, ce qui fait que ça devient souvent, il peut y avoir du sang, la banque de sang, mais qui n'est pas spécifiquement ce dont le drépanocytaire a besoin. Et des fois, le drépanocytaire, on peut lui demander d'être transfusé avec 2-3 poches de sang. On voit qu'il a du mal à trouver une seule poche et c'est dans un temps bien précis, souvent parce que ça trouve qu'il a tout de suite besoin de sang et il lui faut ça. Et là, des fois, on a une poche, il faut attendre des jours pour avoir une deuxième, ainsi de suite. Ça devient vraiment très difficile jusqu'à arriver à des points vraiment très difficiles.
Alors, Sekoumar Koulibaly, est-ce qu'il y a des dispositions, des mesures qui sont prises au niveau du Centre national de transfusion sanguine pour ces cas particuliers de drépanocytaire?
Bien sûr que oui. Qui parle de la sécurité transfusionnelle parle de la disponibilité du sang en quantité, mais surtout de sa disponibilité en qualité également. Donc nous veillons vraiment à cela. Elle vient de le dire, pour les drépanocytaires, leur vie dépend de la transfusion. Donc on doit tout faire, pour que ces patients-là, cette catégorie de patients-là, n'arrivent pas quand même à produire un anticorps, un produit contre certains éléments du sang. Donc pour les autres malades, on peut les transfuser en tenant compte du groupe sanguin et du registre, mais pour les drépanocytaires, il faut creuser davantage pour voir ce qu'on appelle le phénotypage d'autres antigènes. Donc la compatibilité entre donneur et receveur drépanocytaire exige à ce qu'on fasse d'autres qualifications, ce qui peut rendre vraiment un peu difficile le fait de les trouver tout de suite du sang. Voilà, sinon toutes les dispositions sont prises. Ici au Mali, voilà, les services médicaux qui s'occupent de la prise en charge des drépanocytaires, ça c'est le CRLD, le Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose. Ce centre travaille main dans la main avec les CNTS. Voilà, il y a une collaboration franche entre nous par rapport à la prise en charge sécurisée des drépanocytaires.
Alors certains estiment qu'il y a en tout cas, certaines pratiques autour du don de sang, comme la magouille, d'autres même parlent de vente de sang. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça aujourd'hui? Est-ce que le sang se vend?
On ne peut pas dire non. Ce qui se passe à l'intérieur du centre du CNTS, nous, on peut maîtriser cela. Mais ce qui se passe en dehors du CNTS, on ne peut pas le maîtriser. Mais on a vocation à le maîtriser également à travers ce qu'on appelle un système de surveillance qu'on appelle l'hémovigilance. Normalement, on doit tracer tous les produits sanguins qui sortent du CNTS, voilà, jusqu'à ce qu'ils soient administrés aux patients dont ils sont, pour lesquels ils sont destinés. Mais la rareté fait que le sang est vraiment précieux. Et si c'est rare là, donc il y a tout un trafic qui peut s'organiser autour. Nous, on essaye tant bien que mal quand même de lutter contre le phénomène. Voilà. Mais bon, je crois que si c'est réel quand même maintenant, l'impact n'est plus... C'est pas aussi frappant que ça en termes de proportion. Actuellement.
Monsieur Koné, vous en avez entendu parler aussi qu'on vend du sang ou bien qu'il y a de magouilles, de la corruption autour de ça?
Oui, comme il a si bien dit, bon, écoutez, tout ce qui est rare, bon, devient quelque chose à discuter. Parce que les patients qui viennent chercher du sang pour leurs malades, tellement qu'ils ont peur pour la vie de leurs malades, ils veulent tout faire pour avoir le sang. S'il y a corruption, la corruption vient d'abord des parents des patients. Ça, c'est un. Et de deux, même quand ils disent que nous, on a acheté le sang, nous, on n'a pas la preuve. Parce que souvent, nous, on entend, une fois, il y a même un ami, un tonton, qui m'a dit que on lui a vendu du sang. J'ai dit, qui t'a vendu le sang? Tu peux me donner le nom? Il n'a pas pu me donner. Donc, des choses comme ça, moi, je ne peux pas croire. Parce que quelque chose que tu ne peux pas remonter, ce n'est pas la peine. Parce que dire que quelqu'un t'a vendu le sang et que tu ne sois pas capable d'indiquer la personne, vraiment, c'est très difficile. Donc, les rumeurs comme ça, nous, on ne peut pas prendre ça comme de l'argent comptant. Il se peut que ça se passe. Mais ça se passe en dehors de CNTS. Les négociations, s'il y en a, s'il y a lieu de faire des négociations, ça se fait en dehors.
Mais est-ce qu'il y a des gens qui passent par vous, puisque vous êtes membre d'une association, par votre association, pour avoir des facilités à avoir du sang au lieu de passer par le CNTS directement?
Ça, c'est très nombreux. Surtout nous, les jumeaux, nous sommes jumeaux. Nous sommes les plus grands donneurs de sang. Nous sommes tous, nous avons chacun dépassé les descendants. Alors, tous ceux qui savent que nous sommes des donneurs bénévoles, et souvent qu'on passe à la télé et autres, et quand il y a les journées mondiales de don comme demain, de donneurs comme demain, souvent les gens voient, on parle des jumeaux, les plus grands donneurs. Chaque fois que les parents ont un problème de don, tout de suite ils nous appellent. Ou bien ils passent par quelqu'un qu'ils connaissent pour prendre notre numéro. Ils nous appellent pour venir vraiment plaider pour eux ou bien pour donner du sang pour eux.
Qu'est-ce que vous faites pour...
Alors, nous, très généralement, moi, pour mentir, souvent, je dis que je ne suis pas à Bamako. Quand on me dit de passer par nos contacts, je dis non, quand tu n'es pas là, ce n'est pas possible. C'est très difficile à gérer. Et souvent, je dis à d'autres aussi, mais nous ne sommes pas des machines à fabriquer du sang. Le sang, ça ne s'achète pas. C'est pourquoi il y a ce problème-là. Pourquoi toi-même, tu ne peux pas devenir donneur? Tu me demandes mon service parce que moi je suis devenu donneur bénévole, mais pourquoi toi tu ne peux pas devenir donneur bénévole pour ne pas avoir besoin de mon service? Tu n'as pas quelqu'un chez toi qui peut devenir donneur bénévole pour ne pas venir tout le temps me demander, mais moi je ne suis pas une machine, je ne suis pas là pour servir à tout le monde. Moi je viens donner le sang bénévolement à cause de Dieu. Ceux qui vont en bénéficier, ouais, bon, je ne sais pas. Mais dire que moi je veux venir intervenir pour toi, vraiment, moi, ça me fait du mal. Madame. Parce que pour moi, je veux que tout le monde soit donneur comme moi. vraiment.
D'accord. Madame Togula, est-ce qu'il y a ces pratiques de corruption, de vente, même dans le domaine du don de sang? Est-ce que vous en avez rencontré? On vous a déjà parlé de ça?
Bon, nous, puisque les drépanocytaires sont vraiment ceux qui sont pratiquement tous les jours au CNTS, on leur dit que le sang, ça ne se vend pas. Donc, pour rien au monde, il faut payer pour avoir une poche de sang. Mais en réalité, on ne peut pas, comme il vient de le dire, on ne peut pas remonter jusqu'à la source. Mais ils disent qu'en réalité, quand ils arrivent, il y a des gens qui viennent proposer de payer pour avoir une poche et qu'eux, quand même, le refusent parce qu'on leur a dit de ne pas payer, mais qu'ils ont constaté que quand on paye, c'est très rapide de l'avoir. Donc, ils ont constaté que ceux qui payent, je ne sais pas par quel moyen, mais c'est très rapide. Une autre raison.
Si on paye où? Même au
CNTS? Ils ne peuvent pas remonter parce qu'eux, ils n'ont pas accepté de payer. On leur a dit de ne pas payer. Mm-hmm. Donc, ils ne peuvent pas dire qu'ils ont payé avec un tel ou un tel. Nous sommes confrontés à un autre problème, c'est que pour certaines analyses, nos malades doivent payer pour ça. Ça, ce n'est pas dans le cadre de vente du sang, mais puisque nous avons besoin de sang bien spécifique. Donc, c'est ce qui cause comme problème aux malades drépanocytaires parce que souvent, quand ils arrivent, on leur dit qu'il faut payer pour telle ou telle analyse. Ils se disent que non, on nous a bien dit que le sang, ça ne se vend pas, donc on n'est pas prêt à payer si on n'arrive pas à leur expliquer que non, ce n'est pas pour payer du sang. Il y a du sang, comme ça, on ne paye pas. Mais pour vous, puisque c'est spécifique et ces analyses spécifiques qu'il faut faire, donc il faut payer pour ces analyses et non pour le sang.
Voilà. D'accord, mais s'il y a un malade ou une malade qui n'est pas membre de votre association, par exemple, et qui vous approche, qu'est-ce que vous faites pour ce dernier ou cette dernière?
Nous, pratiquement, c'est vrai que l'AMLUT sait que le CNTS, c'est la seule structure au Mali qui s'occupe du sang. Donc, c'est vrai qu'on a eu à travailler en partenariat ensemble. Et là, tout ce qu'on peut, même à nos membres, On ne peut pas leur dire que oui, vous avez besoin de sang, l'AMLUT va vous trouver du sang tout de suite au centre parce que ce n'est pas possible. Le CLLD donne une fiche aux malades et dès que la fiche arrive au CNTS, ils savent que ce malade est un drépanocytaire et qu'il a besoin de sang. Souvent, le manque de sang n'est pas dû au fait qu'ils ne veulent pas lui donner, mais nous avons besoin de types de sang bien spécifiques pour le malade. Mm-hmm. Et si jamais on s'entête à prendre n'importe quoi, ça peut créer d'autres problèmes.
Mm-hmm. Voilà. Alors, c'est Kumar Koulibaly, elle l'a dit, elle en a entendu parler qu'on vend du sang, certains, voilà, pour avoir facilement, il faut payer. Est-ce qu'au sein de votre structure même, il arrive que ces pratiques-là soient courantes dans votre structure? Sinon, qu'est-ce que vous faites pour réguler les choses là-bas?
Je suis au CNTS depuis 2007. Mm-hmm. 2007 à aujourd'hui, ça doit faire quelque chose comme 16 ans. Mm-hmm. Je ne me suis pas rendu témoin oculaire de ce genre de pratiques. On l'entend. Des fois, il y a même eu des plaintes. Mm-hmm. Voilà, qui se sont retrouvés sur la table du juge, mais il y avait un vide juridique qui entourait vraiment la transfusion. Mais maintenant, ce vide-là est comblé avec l'adoption d'une loi sur la transfusion, avec des clauses qui répriment également. Donc je crois que cette loi sera quand même un instrument dissuasif. Mais il y a un autre aspect qu'il faudrait bien souligner, c'est que dans un système de compensation, lorsque un malade a besoin d'être transfusé et qu'on demande à ses parents de venir donner en guise de compensation, ce qui se joue en dehors du CNTS, nous, on ne peut pas juger de cela. Il se peut que les parents aient recours quand même à des donneurs de rémunération. Peut-être certains peuvent rôder autour quand même de ces centres de transfusion pour proposer leur sang en vente. Voilà. Donc, ils peuvent quand même prendre de l'argent et venir se faire passer comme étant les parents de la famille, voilà, pour donner leur sang. Si on appelle ça vente de sang, donc ce n'est pas le CNTS qui a vendu. Donc, une autre précision à ajouter, c'est que le test de compatibilité, généralement, le test de compatibilité, nous, on le facture. On le facture à moitié prix. Donc, c'est un forfait qu'on a appliqué qui ne fait que 3000 francs. Le test de compatibilité, c'est quoi? Vous pouvez être du même groupe sanguin que le donneur, groupe A+, mais il se peut que, en raison quand même d'un anticorps que vous aurez produit lors d'une transfusion récente, antérieure, ou bien lors d'une grossesse, si vous êtes femme, Vous avez produit un anticorps qui fait que vous êtes du même groupe sanguin que les donneurs, mais les deux sangs ne sont pas compatibles. Donc, il va falloir que nous, on teste en tube dans les conditions du labo pour voir que les deux sangs sont effectivement compatibles. Ça, c'est le test de compatibilité qui est facturé à 3 000 francs officiellement. Elle a dit pour les drépanocytaires, pour les patients dont la vie dépend de la transfusion, il faut les transfuser en tenant compte du phénotypage sanguin. Le phénotypage, c'est la recherche d'autres antigènes. C'est le terme technique qu'on a du mal à simplifier. Voilà, on va rechercher 5 autres antigènes supplémentaires. C'est comme si on fait d'autres groupes sanguins. Donc ça aussi, ça a un coût. Voilà, donc c'est ce coût qu'on applique. Ça, on ne doit pas appeler ça vente de sang. Mais de toutes les façons, il va falloir quand même qu'on soit suffisamment communicatif pour pouvoir éclairer la lanterne de la population.
Alors, il y a des démembrements de votre structure, si je ne m'abuse, à l'intérieur du pays. Sinon, comment vous faites pour gérer les cas de... Souvent, il nous revient qu'il y a une pénurie de sang dans certaines localités, dans les banques de sang au niveau de certaines localités. Comment le CNTS gère tout ça? Ou bien cela n'est pas de votre ressort?
Voilà, le CNTS a pour vocation d'assurer la transfusion sanguine, donc d'assurer l'accès universel à l'échelle nationale pour tous les malades. Bon, force est de reconnaître que le CNTS a du mal quand même à assumer cette mission en raison quand même de la faiblesse du budget qui est alloué au système. Voilà, le budget alloué ne permet pas quand même de couvrir toute une année et ça ne permet pas de couvrir tout l'espace. C'est peut-être du politiquement incorrect, mais techniquement, ça nous pose beaucoup de problèmes. Voilà. Les autorités sanitaires font ce qu'ils peuvent. Bon, il n'y a pas assez de moyens. Les autorités sanitaires font ce qu'ils peuvent pour pouvoir vraiment nous assurer un approvisionnement correct, mais ça reste insuffisant. Voilà. Bon, au jour d'aujourd'hui également, le CNTS n'a pas tellement de partenaires techniques pour appuyer le système transfusionnel. Tout ça, ça en rajoute à nos difficultés.
Alors, si on peut parler maintenant de la qualité du sang que vous mettez à la disposition des malades, est-ce que, parce que certains disent aussi que voilà, leur crainte souvent, c'est qu'on ne leur donne pas du sang de mauvaise qualité, ou bien quand eux-mêmes vont donner leur sang, qu'ils contractent d'autres maladies. Quelle assurance pouvez-vous nous donner par rapport à ça?
Voilà, moi, je suis au CNTS et j'assume la fonction de responsable assurance qualité. Donc, tout ce qui est management de qualité, c'est moi et puis mon équipe. Voilà, la qualité du sang, c'est d'abord la qualité même du donneur. Voilà, un sang sécurisé, c'est un sang qui provient d'un donneur volontaire régulier. Un donneur volontaire régulier, c'est quelqu'un qui a opté pour cette activité de façon gratuite, de façon tout à fait altruiste, avec comme seule récompense le réconfort moral d'avoir sauvé la vie de ses semblables. Et puis un donneur volontaire régulier, c'est quelqu'un qui est conscient du fait que lui, à travers son don de sang, il peut porter préjudice à autrui. Donc lui, il va adopter des comportements sains. Et c'est ces comportements sains-là qui font que les donneurs volontaires réguliers, voilà, on en a besoin pour avoir du sang sécurisé. Donc il y a la qualité de la sélection médicale également. Il n'est pas donneur qui le veut, tu peux venir donner ton sang, mais il y a un questionnaire qui te sera administré, il y a un examen médical. Voilà, le don que tu veux faire là ne doit pas porter préjudice pour toi-même et ça ne doit pas mettre en péril la vie du receveur également. Bon, il y a sur toute la chaîne, la qualité doit prévaloir pour qu'on puisse avoir un produit fini de qualité sûr pour les patients. Voilà, alors, nous veillons à ça. Mais bon, c'est une œuvre humaine, quoi.
Oui, Pierre Conné, alors vous, pour être membre de votre association, quelles sont les conditions? Il suffit d'être un donneur bénévole et puis on intègre l'association?
Tout à fait. Quand tu es volontaire, tu viens donner un certain nombre de dons de sang et qu'on voit que tu es régulier. Tu es...
Combien, par exemple?
Bon, 3, 4, 5. Quand tu viens donner ça comme ça, volontairement, on peut te sensibiliser pour te fidéliser. Donc, c'est comme ça que les gens peuvent venir dans l'association gratuitement. On sait que c'est des gens qui viennent donner volontairement sans attendre en retour quelque chose. Mais quand ils viennent donner quelque chose... D'abord, à prime abord, tout donneur qui vient à la banque de sang pour donner une première fois, on te sensibilise. Tu as donné une première fois. Une fois qu'il est sorti de, la salle de don, salle de prélèvement. On le sensibilise en disant que bon, vous avez donné une fois, mais passez une deuxième fois, trois mois après, essayez de venir donner. Si il vient, il respecte, il vient, il donne. On lui dit, bon, tu peux continuer, tu peux faire une troisième fois. Quand il donne, il prend goût et lui-même, il va comprendre. Et c'est comme ça qu'il va devenir un donneur bénévole et régulier. Mmh. Voilà.
Mais votre association... Mais
on ne paye pas pour devenir membre de l'association. Mmh. Voilà. Tu deviens donc membre de l'association à cause de ton, du nombre de dons volontaires. Merci.
Avez-vous des membres un peu partout dans le pays, même dans les régions, ou bien c'est à Bamako seulement que votre association...
Écoutez, à Bamako, les donneurs qui sont à Bamako ici, la plupart, on les connaît. Mais dites-vous qu'il y a des dons partout. Il y a l'association des donneurs bénévoles sur toute l'étendue du territoire du Mali. À Ségou, à Sikasso, partout où il y a des centres où on peut faire des transmissions, les donneurs sont là et ils cherchent à les fidéliser. Mais ils ne passent pas par le CNTS. Parce que ça, c'est en tout cas dans les régions, dans les districts sanitaires. Mais tous ceux qui sont à Bamako ici, quand même, on arrive souvent à les avoir, on se rencontre souvent avec les associations des donneurs bénévoles de sang. Voilà.
Alors, Fatoumata Togoula, est-ce qu'il arrive souvent que, pour le cas particulier des drépanocytaires, qu'il n'y ait pas de sang disponible pour eux dans la capitale malienne? Si c'est le cas, comment vous faites? Est-ce que vous faites recours aux structures à l'intérieur du pays ou bien même hors du pays?
À l'intérieur du pays, même, on a besoin du sang. Donc, c'est très difficile d'en trouver de là-bas pour l'amener à Bamako. Et il arrive vraiment que ça devient très difficile d'avoir du sang pour nos malades. Des fois, lorsqu'ils ont besoin de 2 à 3 poches, des fois, la deuxième ou la troisième arrive très tard. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui nous fatigue beaucoup au sein de l'association, qui nous a beaucoup endeuillé plusieurs fois. Donc, vraiment, on aimerait demander au CNTS et à nos dirigeants de tout faire pour épauler les CNTS dans le besoin, ce dont ils ont besoin, pour que vraiment le type de sang dont les drépanocytaires ont besoin puisse être là en quantité, pour que, pas seulement à Bamako, mais partout dans le pays, parce que nous avons les drépanocytaires partout dans le pays.
Mais pour vous, est-ce que la population est suffisamment sensibilisée par rapport au don du sang?
La population, je dirais que maintenant, Dieu merci, il y a beaucoup d'associations de jeunes donneurs de sang maintenant. Et ils ont compris, on a compris que quand la jeunesse accepte d'intégrer la chose, ça peut s'éterniser. Donc, à Bamako, il y a beaucoup de dons de sang. Mais je ne sais pas trop à l'intérieur du pays si tel est le cas, si c'est aussi fréquent que cela. L'association malienne, à chaque fois de lutte contre la drépanocytose, à chaque fois que nous rapprochons les jeunes, on parle de ce côté parce que le sang fait partie de nos médicaments. On a régulièrement besoin de ça. C'est très difficile de voir un drépanocytaire dans sa vie qui n'a pas été transfusé une seule fois. Et des fois, il y a certains qui peuvent aller à prendre jusqu'à plus de 10 poches par an. Donc, ça fait partie de nos thèmes que nous débattons à chaque fois qu'on se retrouve avec des gens pour les sensibiliser davantage à faire beaucoup de dons de sang pour pouvoir aider nos malades et d'autres malades. Les autres ont occasionnellement besoin du sang, mais nous, on a permanemment besoin.
Mm-hmm. Oui. C'est Koumar Koulibaly. Vous faites suffisamment de sensibilisation?
Bien sûr. Et puis, on utilise tous les canaux de communication possibles. Voilà, on a des équipes de promotion du don qui se déplacent d'entreprise à entreprise, d'école à école pour sensibiliser.
Voilà, est-ce que vous pensez que ces sensibilisations-là font effet, produisent des résultats?
Bon, de toutes les façons, ça vaut mieux que rien. Mais comme je l'ai dit tantôt, vous allez trouver qu'au Mali, ici, beaucoup se sentent concernés par le don de sang, mais ils ont du mal à faire le premier pas, à passer à l'acte, pour X ou Y raison. Il y en a qui vont dire qu'ils ne sont pas suffisamment bien alimentés. Il y en a qui vont avancer comme prétexte la peur même de léguer. Voilà, il y en a aussi qui vont dire qu'ils ont peur de connaître leur statut, s'ils vont donner leur sang par rapport à un certain nombre de marqueurs tels que le VIH, l'hépatite B. Il y en a également qui vont dire qu'ils ont la volonté, mais ils n'ont pas le temps. Leur temps ne leur permet pas. Raison pour laquelle tantôt j'ai dit que voilà, le CNTS peut aller vers ces donneurs-là. Et cela aussi demande beaucoup de moyens en termes de logistique, de véhicules de collecte, en termes de matériel de chaîne de froid, en termes de personnel également. Voilà, donc comme elle a si bien dit à travers son message, le CNTS doit être appuyé pour appuyer les autres. Et puis je profite de votre micro également pour préciser que le CNTS n'est pas le destinataire du sang donné par les donneurs. Le CNTS n'est qu'une interface. Nous, nous sommes là seulement pour prendre le sang, le traiter et puis le mettre dans le circuit au profit des malades. Donc, d'accord, s'il arrive que, pour X ou Y raison, le donneur, un donneur se sente frustré, il ne faut pas quand même qu'il nous juge à travers notre comportement pour arrêter de donner. Mais il ne donne pas pour nous, il donne pour les malades.
D'accord. Alors, une dernière question pour vous trois. Comment faire aujourd'hui pour que le CNTS puisse être autosuffisant en matière de don de sang? Je commence par vous, Koulibaly.
Ah, pour moi, il faut augmenter suffisamment le budget alloué au CNTS. Il faut vraiment augmenter le budget alloué au CNTS. L'État est à saluer parce que l'État a décrété quand même la gratuité. Mais qui dit gratuité dit accompagnement également. S'il n'y a pas suffisamment de mesures d'accompagnement, on aura du mal quand même à faire face aux nombreuses demandes qui sont de plus en plus croissantes. Et puis ce qu'il faut ajouter également, c'est que ce n'est pas le sang tel qu'il est donné qui est traité et administré aux patients. Nous, on doit fractionner le sang, le séparer entre ses différents constituants. La transfusion, c'est en fonction du besoin spécifique du malade. Si le malade a besoin de globules rouges parce qu'il est anémié, c'est le cas des drépanocytes, on va lui apporter que du concentré de globules rouges. S'il a besoin de plasma frais congelé parce qu'il a un problème de déficit en facteur de coagulation, c'est le plasma frais congelé qu'on va lui apporter. Ça, c'est possible à Bamako, mais ce n'est pas possible à l'intérieur du pays.
D'accord.
Parce qu'il n'y a pas assez de moyens pour mettre en place toutes ces logistiques.
Ok, en 30 secondes, Pierre Conné, que faut-il faire pour rendre le CNTS autosuffisant?
Bon, plus de pour moi, l'État, comme il a dit, l'a beaucoup fait. Les partenaires, le CNTS n'a pas beaucoup de partenaires. Mm-hmm. Bon, l'État et l'OMS font beaucoup de choses.
Mais il faut donc chercher des partenaires.
Des partenaires, il y a l'UNICEF qui est là pour les enfants. Les enfants ont souvent besoin de sang. Mm-hmm. Bon, pas mal de projets sont là. L'USAID est là. World Vision, bon, beaucoup de projets sont là. Il faut qu'on les approche. Et avec l'OMS, je crois qu'on est en train de programmer des séances d'engagement où on va faire de la communauté.
D'accord.
Si on arrive à faire le tour de la communauté, des 6 communes déjà de Bamako, plus les structures, comme il a dit, les structures, les usines,
d'accord,
et ainsi de suite.
D'accord. Donc, essayez de diversifier les partenariats. Madame, on termine par vous en deux mots. Il est déjà 19h, oui. Allez-y.
Moi, je m'adresserai à la population pour leur dire que vraiment, nous avons besoin de sang pour pouvoir vivre comme tout le monde. Et au CNTS, je leur demanderai de souvent se joindre aux différentes associations, pas seulement l'AMDUT, qui parle du don de sang chaque fois pour que ceux qui vont recevoir le message puissent savoir que nous sommes avec le CNTS et que nous avons besoin de sang et que ça doit passer par le CNTS.
D'accord, cela est bien compris. C'est ce qui met fin à ce grand dialogue d'aujourd'hui qui parlait du don de sang en prélude à la journée mondiale du donneur de sang. Nous recevions sur ce plateau Sekou Oumar Koulibaly du Centre national de transfusion sanguine, Pierre Conné de l'association des donneurs bénévoles de sang et Fatoumata Togola de l'association malienne de lutte contre la drépanocytose. Ce grand dialogue a été présenté par Sekou Gadjigo, mise en onde Adjaratou Traoré. Et à la régie vidéo, il y avait Salim Djouara. Merci à toutes et à tous et à demain.